et qu'elles avaient été bien posées. Et que la saison qui allait arriver maintenant était celle de construire sur ces fondations-là. Ça sous-entendait que le travail, quelque part, est fait en partie. C'est ça que ça veut dire. Les bases sont posées. Hein, ça, c'est quand même très important, parce que quand il n'y a pas de base, ben, on ne peut rien faire. Mais le travail reste à faire, à savoir d'édifier, en fait, la maison de Dieu pour que justement elle prenne de plus en plus de formes, de dimensions et de portée. Amen. Et c'était répété vraiment par les différents frères qui étaient là de différentes manières, mais c'est vraiment une pensée qui s'est clairement imposée et donc qui doit nous interroger forcément sur la manière dont on veut construire un petit peu l'avenir, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, avec qui on veut le faire. Il est bon de se rappeler que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, ça on le sait bien. L'Église, c'est des pierres vivantes. C'est-à-dire que l'Église, c'est chacun d'entre nous. Et les fondations, en réalité, c'est vous, en réalité. Allô ? Les fondations, c'est vous. C'est ce que Dieu a établi au travers de ce que vous savez du Seigneur, ce que vous avez appris du Seigneur, ce que vous connaissez du Seigneur. Il y a une base d'acquis, de vécu, d'expérience avec Dieu qui fait aujourd'hui l'église des nains est ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir une église qui a posé ses fondations. Et c'est sur ces fondations-là qu'alors on est appelé, je dirais, à travailler pour que les choses s'édifient, se construisent encore davantage. La parole que je voudrais apporter ce matin, que j'ai sur le cœur d'ailleurs avant même que l'équipe de Sylvain et de Tom, on pourrait dire ça comme ça, soit venue. Je voudrais vous parler ce matin de plusieurs personnages dans la Bible, d'Élie. On va parler d'Élie ce matin, on va parler d'Élisée. Et si on a aussi le temps, on va parler un peu de Géasi également, qui est le serviteur d'Élisée. Et on va parler aussi du roi Joas sur la fin. Ce qu'on va partager ce matin, quelque part, je pense que c'est appelé à contribuer justement à l'édification de ce que Dieu veut faire ici, dans l'église ici à Hénin en particulier. Et on va commencer, si vous voulez bien, à prendre le premier livre des Rois au chapitre 17 et au verset 1 à verset 7. Donc c'est 1 Rois, chapitre 17, versets 1 à 7. Et on va un petit peu, pour commencer, essayer de parler un petit peu sur la nature de l'œuvre de Dieu et également sur la nature du ministère. Et avant ça, on va juste prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur de nous bénir ce matin, Seigneur, au travers de ta parole. Seigneur, je prie pour que ton esprit, Seigneur, dépose en nous, Seigneur, dans nos cœurs tes pensées et nous permette, Seigneur, d'aller de l'avant, Seigneur, de faire en sorte que cette édification, Seigneur, sur les fondations puisse, Seigneur, avoir lieu et se mettre en route, Seigneur. Nous savons qu'il faut du temps, que l'œuvre de Dieu, ton œuvre, Seigneur, prend du temps. Il a fallu des années, Seigneur, pour arriver à des fondations qui soient de qualité. Et Seigneur, nous croyons qu'il faudra encore du temps, Seigneur, pour que les choses se développent. Mais nous voulons compter sur toi, Seigneur, et te prier pour que cette parole de ce matin, Seigneur, vienne nous aider, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, 1 Roi, chapitre 17. Et on va lire jusqu'au verset 7 pour commencer. « Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. » Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Amen. La nature du ministère, pour ce qui est d'Élie, c'est un ministère qui est quand même marqué par la puissance de Dieu. Vous serez d'accord avec moi que aller voir un roi et puis lui dire « Écoute, il ne pleuvra pas sinon à ma parole », ça pèse lourd quand même. C'est pas, on n'est pas dans des petites choses. On a là un homme qui est en connexion avec vraiment le ciel et qui est revêtu, on peut le dire clairement, d'une autorité spirituelle vraiment remarquable. D'accord ? Et ça, c'est super encourageant. Le service de Dieu pour les uns et pour les autres, c'est formidable quand on vit, quand on expérimente la puissance du Seigneur. Et on la vit de temps en temps, peut-être pas encore à ce niveau-là, parce qu'il faut reconnaître que le niveau d'Élie, c'est un niveau extrêmement haut. Mais cela dit, on a tous vécu des expériences qui font que notre foi, comme dira Paul, n'est pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et ça, c'est formidable. Mais le ministère d'Élie, c'est pas simplement un ministère, on pourrait dire, qui est vraiment vécu dans la gloire et que dans la gloire. Il va aussi connaître, je dirais, la misère, entre guillemets. À la fois, il a l'autorité pour fermer le ciel, mais de l'autre côté, il est obligé de se cacher quand même. Il est dans une situation, finalement, qui est quand même assez difficile. Il exprime la puissance de Dieu et cette puissance qu'il exprime l'oblige, lui, à aller se planquer, entre guillemets. Parce que si on l'attrape, on a le pouvoir de le tuer, en substance. C'est ça qui se passe. Et donc, Dieu, dans ce temps-là, alors que Dieu aurait très bien pu choisir de le protéger pleinement et entièrement, et y compris en face des troupes, c'est ce que Dieu fera quelques années plus tard, mais à ce moment-là, tout au moins, dans la souveraineté de Dieu, l'exercice du ministère comprenait des choses glorieuses, mais aussi des choses qui sont quand même difficiles à vivre, à commencer par cette fuite. Ce pouvoir de l'ennemi qui est plus fort, quelque part, que le pouvoir même du prophète, qui est le pouvoir de Dieu. Et puis, remarquez avec moi, dans ce texte, on le voit aussi, franchement, il ne va pas manger au Précatelan, là. C'est pas le top. Les corbeaux lui apportent de la viande. Ils ne sont pas passés avant au restaurant pour une viande bien cuite. À point, non, rien du tout, là. C'est de la viande, vous imaginez, que les corbeaux vont déchiqueter comme ça, à droite, à gauche, et ils vont lui apporter une nourriture qui, nous, juste en y pensant, nous donne presque envie de vomir. Non ? Donc, on a un prophète qui connaît la puissance de Dieu, mais qui connaît aussi vraiment la pauvreté, l'extrême pauvreté, et qui se soumet à cette réalité-là. Et c'est difficile. C'est pas une chose qui est facile. Ensuite, la Bible nous dit, voilà, la réalité, c'est que, bien sûr, comme il pleut pas, le torrent arrive à sec. Il n'a même plus de quoi boire, pour montrer à quel point c'est difficile. Ce contraste glorieux, entre guillemets, pas glorieux, c'est la réalité du ministère. Que les uns et les autres, nous avons aussi vécu, dans une certaine mesure, dans nos vies. Voilà. Il y a des choses que vous avez vécues magnifiques, et puis il y a d'autres choses, parfois d'autres réalités du terrain, qui ont été les vôtres, qui n'ont pas été si chouettes que ça. Non ? Parfois, c'est pas simple, mais c'est la réalité. C'est la réalité dans laquelle Dieu nous place. Et puis, remarquez, Dieu va envoyer Élie ensuite dans une autre contrée, vers la veuve. Il vient vers elle, Dieu a ordonné à cette veuve de le recevoir. Il arrive et elle a rien. Rebelote, ça continue. On vit la gloire de Dieu, mais on vit aussi vraiment la difficulté. Et toute cette situation se vit quand même sur un fond d'oppression spirituelle du roi Akab. Si vous lisez l'Écriture là, dans ce contexte-là, vous rendez compte qu'il y a des prophètes, il y a des serviteurs de l'Éternel qui passent à la casserole, entre guillemets, qui perdent la vie. Et il y a des hommes comme le serviteur d'Akab, Abias, qui va lui prendre 100 prophètes, 50 par 50, les cachant dans la grotte, leur donnant à manger du pain et de l'eau pour les sauver de l'oppression du roi. Élie vit dans ce temps-là. Il voit la puissance de Dieu à l'œuvre. Le ciel est fermé, mais en même temps, il est sous l'oppression non seulement lui, mais également les autres sont sous l'oppression du pouvoir du roi. Et on est dans cette époque, un peu qui était plus ou moins inévitable, du conflit entre les prophètes et les rois. Souvenez-vous de Samuel qui va établir Saül. Et dès le départ, finalement, il y aura eu un conflit entre le prophète et le roi. Hein. Seulement à de rares moments, il y a eu une harmonie quand les rois se soumettaient à la volonté de Dieu et obéissaient quelque part aux prophètes. Alors il y avait l'unité et la bénédiction. Il y avait aussi des rois prophètes comme David, et là c'était excellent. Mais dès que le roi ne suivait plus la pensée de Dieu, les prophètes se levaient quelque part au nom du Seigneur pour corriger les rois. Pensez à Nathan qui va corriger David. Et si le roi n'entendait pas la voix de Dieu au travers du prophète, on arrivait à un conflit d'autorité ouvert, haut et fort. Et à un moment donné, on est arrivé à cette période finalement terrible où les rois oppressaient les prophètes et tuaient potentiellement les prophètes, ce qui est quand même terrible. Alors on a donc un Élie qui me parle, moi, aujourd'hui, de la réalité de ce que peut être le ministère, le service de Dieu, pour les uns et pour les autres. Hein. Je ne parle pas uniquement des ministères ou des serviteurs, je parle de chacun d'entre nous. Ce que l'on peut tous expérimenter, c'est cette réalité-là, des choses merveilleuses couplées à des choses difficiles. Et ce qui va se passer dans le cœur d'Élie, c'est que cette situation du ciel fermé a clairement un objectif. L'objectif de Dieu et la stratégie de Dieu est très simple et en même temps redoutable. C'est qu'il met le roi Akab au bout du rouleau. Il n'y a plus d'eau. La nation est en train de mourir. Ils sont sur le point de tuer les bêtes. Et à ce moment-là, la demande que va faire Élie va être entendue et va être exaucée par un roi qui est son ennemi. Hein, quand on est ennemi, on ne fait pas comme ça la volonté de son adversaire, n'est-ce pas ? Et le prophète Élie va dire « Rassemble le peuple d'Israël et rassemble les 450 prophètes de Baal au mont Carmel. » Et le roi va s'exécuter, va le faire parce qu'il n'y a plus d'eau. Parce qu'ils sont en train de mourir et son autorité de roi est tellement peut-être contestée aussi qu'il faut qu'il se passe quelque chose, il faut que l'eau revienne. Et donc le roi Akab se soumet à la volonté du prophète et on connaît la suite, hein, vous connaissez l'écriture qui va révéler finalement que Dieu va se révéler par le feu et les prophètes de Baal vont être découverts comme de faux prophètes. Et là, les 450 prophètes de Baal, pour le coup, c'est leur tour, passent à la casserole.
Waouh !
Vous imaginez le truc ? Une grande libération, une grande, grande libération qui est opérée par Dieu au travers du prophète Élie. Les 450 prophètes qui détournent le peuple de Dieu de la vérité sont zigouillés, excusez-moi l'expression, mais c'est ça, concrètement c'est ça. Et le peuple tout entier, qui était un petit peu clopin, clochant, un coup l'Éternel, un coup les Baals, ils sont contents à un moment donné quand Élie propose vraiment que le vrai Dieu se manifeste. Et la Bible dit qu'ils ont trouvé ça bien. Et Dieu s'est manifesté et le peuple a pu suivre vraiment l'Éternel à ce moment-là, parce que les choses sont devenues claires pour eux. Ils étaient dans la confusion. Mais grâce au prophète Élie et à l'action de Dieu, les choses se sont rétablies. Alléluia. Formidable. Élie est donc rempli du Seigneur, merveilleuse expérience. Il va à Jisréel, vous trouvez ça dans l'Écriture. Et là, il arrive devant qui ? Devant Jézabel. Et Jézabel lui dit, « Toi, mon gaillard, tu viens de tuer mes prophètes. Hein, » Je résume un petit peu, mais tu ne vas pas passer la journée, quoi. Je vais m'occuper de ta tête. Et là, le prophète Élie, qu'est-ce qui se passe pour lui ? On connaît l'histoire. Il va prendre peur. Il va prendre peur. Il va se dire, c'est mon tour. Et la Bible nous révèle qu'alors, il va fuir. Il va fuir et là, il va rentrer dans ce qu'on pourrait appeler la dépression d'Élie. Il va être dans une déprime XXL. Et sa demande qu'il formule à Dieu, c'est quoi ? Prends-moi la vie. C'est bon, Je suis resté tout seul, tous les autres sont morts, ce qui n'était pas vrai au passage. On en veut à ma vie. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait le maximum. Maintenant, Seigneur, prends-moi la vie, j'en ai ras la casquette. C'est fini. Au revoir. On ferme la boutique, on ferme les yeux, on s'endort, tout va très bien. Voilà ce qu'il demande. Et ça me parle, frères et sœurs, pour nous aujourd'hui, ça me parle que à certains moments dans notre parcours chrétien, dans notre marche et dans notre service pour Dieu, on arrive parfois à ce stade-là. Le stade de « je suis épuisé, je suis fatigué, Seigneur, j'arrête ». Je ferme les yeux. Fermons les yeux. Hein ? Qui a senti ça à certains moments ? Hein ? Vous le gardez dans votre cœur, vous pouvez le dire aussi, mais voilà. Eh oui, on n'a pas vécu la même intensité de gloire d'Élie, on n'a pas connu la même gravité de combat qu'Élie, mais le peu qu'on a connu dans les deux sens font qu'on arrive parfois, nous qui sommes du 21e siècle, on arrive parfois à la même conclusion, Seigneur, je m'arrête là, j'en ai ras-le-bol. Je prends ma vie, ça va jusque-là. Et alors le prophète va donc ici, dans cette grotte, Dieu lui parle, on connaît l'histoire, et Dieu en fait va lui dire, il va lui dire donc qu'il faut qu'il aille oindre, donc le Seigneur le remet quelque part en piste. Il lui dit ceci dans 1 Roi chapitre 19 verset 13, on va le prendre. 1 Roi donc chapitre 19 et au verset 13. Quand Élie l'entendit, la voix du Seigneur, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, ce qu'il a déjà dit au Seigneur, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. » Et il cherche à m'ôter la vie. Donc il ne fait que redire exactement son désarroi. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire ? Il va lui dire, vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète à ta place. Amen. Donc Dieu lui donne un ordre de mission, quelque chose qui est censé quelque part le remettre en piste. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, il faut se rendre compte que Élie est tellement, je dirais, dans son cœur, tellement découragé. Il est quand même, il est au bout du rouleau. Il est fatigué. Il est épuisé. À un moment donné, quand cet ange vient pour lui donner de la nourriture pour marcher 40 jours et 40 nuits, quand vous regardez la distance en fait qu'il va parcourir, nous on se dit il a parcouru, en fait il faisait 8 km par jour avec la nourriture de l'ange. Vous voyez ce que ça veut dire, 8 km par jour, une heure de marche. Il était fortifié par l'ange, il était tellement déprimé qu'il arrivait à peine à marcher 8 km par jour. Il était vraiment chaos, épuisé complètement et fatigué et découragé. Et Dieu lui dit, alors qu'il est situé à ce moment-là, il est au mont Horeb, il est au Sinaï, il est tout en bas, Dieu lui dit maintenant, tu vas aller à Damas, au sud d'Israël. Là, c'est plus 30 ou 40 ou 50 kilomètres qu'il a à faire en 40 jours. Là, il a au moins quelque chose comme 400 kilomètres à faire. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il entend ça. Tu dois aller oindre le roi Hazaël à Damas. Tu dois aller aussi le roi d'Israël et Élisée, prophète à ta place. Quand il entend prophète à ta place, wouhouhou ! Super ! J'ai celui qui va me mettre peinard, tranquille, je vais pouvoir me reposer, il y en aura le bol. Et en fait, quand il entend ça, il va voir en premier, la Bible dit qu'une fois qu'Élie a entendu ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir Élisée. C'est la troisième mission qu'il a à accomplir. Et il commence par la troisième. Et en fait, quand vous regardez bien dans le détail de l'Écriture, vous vous rendez compte que les deux missions qui restaient à faire, en fait, ce n'est pas Élie qui va les faire, c'est Élisée qui va les faire. Élisée va en faire une, et Élisée va en faire une par un autre prophète, pour le roi d'Israël. Intéressant quand même, de voir un peu comment ça se passe. Ça, c'est la réalité du ministère, qui fait que la fatigue et l'épuisement fait que, vite, on fourgue le bébé, entre guillemets. C'est pas vrai. Des fois, on s'est occupé des enfants, peut-être pour un certain temps. On est fatigué, on aimerait que quelqu'un prenne le relais. Ils sont où les autres, là ? Il n'y a personne qui veut prendre le relais, on fait comment ? On continue, puis on fatigue. Et puis, à un moment donné, on trouve une jeunette. Allez, tiens. Non ? Allô ? Et c'est un peu ce qui se passe, hein ? C'est un peu ce qui se passe ici et ailleurs. C'est l'époque dans laquelle, entre guillemets, on se trouve. Maintenant, la vérité, et c'est ça que je veux vous dire ce matin, la vérité, c'est qu'en fait, le ministère d'Élie, à ce moment-là, en fait, il est loin d'être terminé. Il va encore au moins servir au moins 10 ans. Il va effectivement aller voir Élisée, on viendra sur ça tout à l'heure, il va effectivement voir Élisée, il va montrer à Élisée que Élisée est l'homme que Dieu a choisi pour prendre la suite du ministère prophétique, mais pendant 10 ans, Élisée va être aux côtés d'Élie, et Élie va exercer pendant 10 ans son ministère de prophète, et pendant les 10 ans, Élisée va recevoir l'instruction, le savoir du cœur, le caractère, les compétences prophétiques, il va apprendre pendant 10 ans. Et Élie, qui pensait quelque part être à la retraite anticipée, se retrouve finalement à faire quelques années de plus. Ça va ? Vous savez quelle est la pensée que j'ai sur le cœur, que je vous soumets à votre pensée ? À vous qui êtes les fondations, à vous qui êtes les bases, vous attendez à ce que je vais vous dire ? Le Seigneur va vous demander de faire quelques années de plus. Allô ? Moi, je vous dis ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. C'est ma conviction, je vous le soumets, parce que c'est chacun qui doit l'examiner pour sa propre vie. Mais Élie avait encore des années à donner, et des années qui sont d'une extrême importance, parce que ce sont les années, en fait, où on transmet le relais. Vous savez, dans les courses 4 fois 100 mètres, vous pouvez avoir un extraordinaire coureur. Si au relais, ça ne se passe pas bien, ils perdent la course et tout le monde la perd. Et les relais dans l'écriture, la transmission des relais sont pas toujours réussis. Il y a des relais qui sont formidablement réussis. On a Moïse et Josué, par exemple, c'est formidable. David et Salomon, c'est encore correct à peu près. On en a un qui se passe formidablement, c'est Élie et Élisée. Là, c'est extraordinaire. Le relais est extrêmement bien transmis, malgré la fatigue d'Élie, malgré son envie de s'arrêter. Il obéit quand même et il va jusqu'au bout et il transmet un relais formidable à Élisée. On va voir qu'Élisée, lui, de son côté, n'arrivera pas à le transmettre. On verra ça, et c'est dramatique. Un relais qui fonctionne bien permet l'accès à une double onction. Un relais qui ne se passe pas bien, au lieu d'amener une double bénédiction, on descend de 2 crans. Quand on n'arrive pas à transmettre un héritage, y a quelque chose qui est appauvri finalement. Et ça arrive, ça arrive. Ma conviction, je l'ai écrit ici, je crois que les pères et les mères de cette église, vous êtes appelés à servir plusieurs années, et probablement au-delà de ce que vous pensez ou pensiez. Et l'essentiel de votre tâche sera au fur et à mesure de transmettre justement les choses que vous avez reçues pour que les choses puissent s'établir et s'édifier. Maintenant, on va aller voir justement un petit peu l'exemple d'Élisée. On s'arrête un petit peu sur Élie, on va aller voir Élisée. Et on va parler ici, quelque part, Élisée, c'est le cœur de celui qui est censé recevoir, la transmission des choses. Hein ? Et ça, ça fait partie de ce qui doit se vivre aujourd'hui. Et lui, Élisée, sincèrement, il est aussi exemplaire. On va aller dans 1 Roi au chapitre 19, versets 19 à 21. 1 Roi 19, versets 19 à 21. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui dit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Déjà, bien sûr, Élisée a compris hein, ce geste symbolique, prophétique, de mettre le manteau sur lui. Ça voulait clairement dire que Élie lui disait « Voilà, je te choisis et Dieu t'a choisi pour être prophète aussi à ma place. » C'est ça que ça voulait dire. Et le manteau a toujours symbolisé aussi l'onction et l'autorité qui était là. Et donc, il comprenait que ce geste qui était fait par ce prophète, ce n'était pas juste « J'ai l'impression que tu es un peu froid, je vais te mettre ma couverture sur ton dos. » Ça avait vraiment du sens et il a compris ça, évidemment. Mais en le comprenant, il va aussi l'accueillir. Il va être d'accord avec cela. Et ce que va faire Élie, dans ces versets, on le voit, c'est qu'il va sacrifier, en fait. Il va sacrifier sa sécurité. Il va quitter ses parents, déjà, pour commencer. Il va quitter ses parents et manifestement, ses parents étaient des riches propriétaires. Il y avait 12 bœufs qui étaient au travail. Il s'est permis de les tuer et de sacrifier de l'attelage. C'est que ça devait être à ses parents. Hein, on ne voit pas trop casser l'outil de travail de son patron, sauf si c'était parent. Voilà. Il a sacrifié sa sécurité. Il a sacrifié son confort. Voilà, 12 bœufs, 12 paires de bœufs, c'était l'abondance, il manquait de rien. Là, c'était quand même le Élie qui avait mangé la viande des corbeaux, etc., qui avait bu de l'eau du torrent, qu'il n'y avait plus rien, etc. Donc, en suivant le prophète, il sacrifie son confort, il sacrifie sa vie professionnelle, il sacrifie son outil de travail, il sacrifie aussi sa popularité. C'est un homme qui est respecté, respectable, il offre un banquet au peuple, parce qu'il s'en va. Donc il est connu et reconnu des gens manifestement quand même. C'est pas mal. En allant avec le prophète, il sait que quelque part, il va être aussi en confrontation à certains moments avec le peuple qui ne va pas toujours lui dire oui et amen. Et il sait aussi qu'il va prendre des risques sur sa propre vie parce que le roi n'aime pas les prophètes, il les tue. Voilà ce que cet homme fait quand même, cet Élisée. C'est magnifique, non ? Un jeune homme, probablement, qui vit dans un contexte difficile et qui, pour autant, recevant et comprenant qu'il est appelé à prendre la suite, eh ben, s'engage malgré tout et envers et malgré tout. C'est magnifique, quand même. Et sa formation donc, va durer à peu près environ 10 ans, au moins 10 ans, tout au moins, c'est dur de le préciser pour moi. Et la Bible nous dit bien que Élisée va verser l'eau sur les mains d'Élie. Il est aussi son serviteur. Il s'occupe des tâches un petit peu de tout type, d'ailleurs, au passage. Mais surtout, il apprend. Il apprend pendant les 10 ans qui sont là. Et pendant les 10 ans qui sont là, son jeune cœur, son jeune caractère va être modelé, va être formé au contact du prophète. On a la même chose un petit peu avec Paul et Timothée. Paul va former Timothée. Et Paul va dire au peuple de Dieu que personne ne méprise ta jeunesse. Allô ? Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle en parole, en acte, etc. Autrement dit, le risque, entre guillemets, qui peut nous arriver, à nous qui sommes peut-être plus anciens, plus habitués, des colonnes, c'est que quand on voit un jeune homme ou une jeune femme qui arrive, 17 ans, 18 ans, 20 ans, ben, quand on le voit comme ça, on peut se dire c'est quand même un petit jeune. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire ? Allô ? Il n'est pas comme moi, il n'a pas cette qualité-là. Regardez bien comme si. Est-ce qu'on peut vraiment commencer à commencer un début de commencement, de commencer à lui faire un petit peu, peut-être commencer un petit peu confiance ? Voyez, que personne ne méprise ta jeunesse. Il y a des hommes et des femmes que Dieu choisit à certains moments qui sont jeunes, parfois même très jeunes, et qui ont pour autant quelque chose de Dieu, de fort, et qu'il ne faut pas mépriser. Ça va ? Je ne choque personne ce matin ? C'est important de savoir ça. David, le jeune David, était un personnage complètement insignifiant, s'occupant des bœufs, là, hein, des brebis, écarté de la famille même, carrément. Et pourtant, c'était cet homme-là, ce jeune garçon que Dieu avait choisi, que beaucoup méprisaient en réalité. Et c'est lui qui, au final, quand même, a fait des choses extraordinaires. Parce que dans son cœur, il y avait quelque chose de Dieu. Et la sagesse n'attend pas toujours le nombre des années, on le sait très bien. Il y a des gens qui sont âgés, qui se comportent comme des gamins, parfois. Et puis, il y a des jeunes qui se comportent parfois avec beaucoup de sagesse. Et il faut savoir le voir. L'inverse est vrai. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on a raison, non plus. Et on va le voir. On va voir qu'il y a certains jeunes qui sont passés complètement à côté de ce que Dieu avait prévu pour eux. Mais il faut savoir aussi reconnaître et encourager, aller dans le sens de pouvoir ouvrir la confiance quand on commence à voir des choses qui sont évidentes. Il est dit concernant Timothée, tes progrès, travaille afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et c'est vrai que le témoignage est important. L'avancement des jeunes dans leur service pour Dieu, la qualité de ce qu'ils font, au fur et à mesure, ça s'augmente, la qualité devient évident de plus en plus et donc la confiance aussi grandit. C'est certain qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il ne faut pas non plus, je pense, être de manière globale et générale, c'est un petit peu général ce que je dis là, mais il ne faut pas être trop prudent. Ça va ? Alors, Élisée donc va être aux côtés du Seigneur, aux côtés pardon, d'Élie, et donc il va véritablement apprendre. Il va apprendre toute cette réalité spirituelle. D'ailleurs, on en a eu un petit peu un avant-goût ici, là, avec les trois jours, etc. La dimension du symbolique, hein, le symbolique, l'acte symbolique prophétique a une portée dans le naturel. Voilà. Et ça, on a besoin d'apprendre aussi à le vivre, besoin de grandir. Et pour ce qui est d'Élisée, parce qu'il est aux côtés du prophète Élie, il va voir comment Élie va faire les choses. Et il va se rendre compte un petit peu du processus aussi du procédé spirituel. Il va comprendre comment le royaume de Dieu se manifeste. Il va comprendre quelles sont quelque part les clés, les portes, les clés à utiliser pour ouvrir et libérer la puissance de Dieu. Il va comprendre comment les choses fonctionnent. Parce qu'il est aux côtés du prophète et il apprend tout cela. Et puis on arrive au moment où Dieu annonce qu'il va prendre Élie. Et Élisée, parce qu'il a fait toute cette formation, il le sait déjà. Parce que Dieu lui a parlé en réalité. Dieu lui a dit, je vais enlever Élie aujourd'hui. Il est prévenu, pas par les autres prophètes. Quand les autres prophètes lui disent, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui ton maître va... Taisez-vous, il va leur dire, je suis au courant. Il avait pris de la bouteille un petit peu quand même. Et puis quand son maître Élie lui dit maintenant, je vais aller à tel endroit, et c'est le jour où il allait partir au ciel, hein, vraiment pour le coup, reste ici. Il dit non. Et... Non, moi Dieu m'a dit que tu allais partir, moi je ne veux pas te lâcher aujourd'hui. Hein. Je reste collé à tes basques. Ça nous fait penser à ce conflit à un moment donné d'Israël, hein, de Jacob avec cet être céleste, en fait, je ne te quitterai que tu m'aies béni. Et il ne lâche pas le morceau, il a compris ça. Il veut la bénédiction et il veut l'onction qui est sur Élie. D'accord ? Et donc, Élisée est persévérant, même si Élie, peut-être à ce moment-là, est un petit peu dur avec lui, veut laisse-moi tranquille. Et puis, tellement Élisée est au basque d'Élie, finalement, Élie va lui dire ce jour-là, demande-moi, qu'est-ce que tu veux ? Et je le ferai pour toi. Le prophète lui dit ça. Vous retrouverez ça dans l'Écriture. Et alors là, Élisée, il dit, donne-moi une double onction de ton esprit. Là, il est gourmand. Hein, là, il veut que sur les fondations, on bâtisse une cathédrale, hein, les frères et sœurs. Hein. Là, ce qu'il demande, c'est pas un petit abribus. Hein. Il veut quelque chose de magnifique. Hein. C'est beau. Et le prophète lui dit, écoute, ce que tu demandes, c'est dur, c'est difficile, mais si tu me vois, hein, en gros, c'est ce qu'il lui dit, eh ben, tu l'auras. Il le met un petit peu au défi de ça. Ici, on est dans 2 Rois, au chapitre 6. 2 Rois, au chapitre 2, pardon, et au verset 6. On va le prendre ici, si vous voulez bien, comme ça sera fait. 2 Rois, chapitre 6, Élie va lui dire « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie lui dit « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. » Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait. Écoutez bien cette phrase, elle est très importante. Il va dire « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Autrement dit, il voit évidemment le char de feu qui monte. Il le voit avec ses yeux spirituels évidemment. Donc ça veut dire que son acuité spirituelle s'est développée aux côtés d'Élie. Il a été formé, bien formé, parce que Élie a donné des années en plus, bien formé. Il voit, et parce qu'il voit ça, alors le manteau d'Élie va tomber, il va pouvoir recevoir la double portion d'esprit qui va introduire Élisée dans une dimension spirituelle beaucoup doublement plus forte que celle de son propre maître Élie. Vous voyez le truc ? Cette phrase-là, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie », retenez-la pour le moment, d'accord ? Parce qu'on va la voir un petit peu plus tard. On a un homme, Élisée, qui a reçu la formation, d'accord ? Qui a reçu le cœur, le caractère s'est développé, le savoir-faire s'est développé, le savoir de la tête, le savoir des mains, le savoir du cœur s'est développé au contact d'Élie. Et parce qu'il a accepté de traverser tout ça et parce qu'il a eu un maître pour lui enseigner, alors ça finit magnifiquement. Il reçoit la double onction, c'est formidable. Gloire à Dieu. On peut applaudir. Hein. Franchement, on peut applaudir. C'est superbe. Superbe. Et donc, Élisée va pouvoir à son tour rentrer dans son ministère. Ça va ? Maintenant, je vais raccourcir un petit peu, mais ce n'est pas grave, pour montrer que on ne trouve pas toujours des Élisée sur son chemin en tant qu'Élie. Il n'y a pas toujours des Élisée qui sont là, des jeunes qui sont prêts à vraiment sacrifier ce qu'il faut sacrifier. Et Élisée va faire cette triste expérience. Élisée, à un moment donné, il va avoir à ses côtés un serviteur qui s'appelle Géasi. On connaît cette histoire-là, vous la connaissez. Géasi, il va aussi recevoir la même instruction. Mais à un moment donné, Géasi, on connaît l'histoire, je vais un petit peu court, je fais référence à ce que vous connaissez déjà, avec le prophète Naaman, le Syrien. on a cette histoire où Géasi, qui est en train d'être enseigné, d'être formé, qui apprend les choses, parce qu'il n'est pas serviteur d'Élisée juste pour lui verser de l'eau sur les mains, il est serviteur d'Élisée pour recevoir une transmission de quelque chose. Il faut bien le comprendre, ça. Eh bien, Géasi, lui, à un moment donné, il va préférer les richesses de la terre, celles que Naaman voulait donner au prophète, que le prophète ne voulait pas recevoir. Il préfère les prendre. Et le prophète Élisée lui dit, alors, en fait, crois-tu que j'étais absent quand tu es descendu et que tu as demandé pour ceci, pour cela? Et parce que Géasi n'a pas le cœur, il a la formation quelque part, mais il n'a pas le cœur, parce qu'il n'a pas le cœur, au lieu de recevoir l'onction au moment du départ du prophète, il reçoit la lèpre. C'est terrible quand même. Et il devient un historien. Il rappelle après dans l'histoire, si vous lisez, vous verrez qu'il fait le rappel historique au roi hein, de ce que faisait le prophète. Mais il ne rentre pas du tout dans ce que lui-même a pu expérimenter. Il a la formation, mais il n'a pas le cœur. Maintenant, on va aller voir, pour terminer, Joas. Vous allez voir pourquoi. Deux Rois, chapitre 13. Deux Rois, chapitre 13, verset 14. On arrive à la fin de la vie du prophète Élisée. Élisée a sur lui une onction de Dieu qui est remarquable, extrêmement puissante. Malgré ça, remarquez, vous voyez, il y a The Voice et pas Voice. Il y a glorieux et pas glorieux. Il est quand même atteint d'une maladie au passage. Hein. Pourtant, Dieu est là. Hein. Alors qu'Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, Joas, le roi d'Israël, descendit vers lui, pleura contre lui et lui dit, vous avez vu ce qu'il dit ? Mon père, char d'Israël et sa cavalerie, ça veut dire quoi ? En langage courant, donne-moi l'onction ! Non ? C'est le mot magique qui ouvre la porte. Alors qu'est-ce qui se passe après ? On va le lire au verset suivant. Et Élisée, là, donc, l'introduit dans le monde spirituel. Et elle lui dit, vas-y, prends un arc et des flèches. Il prend un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Quand il l'eut fait, Élisée posa ses mains sur celle-ci, celle du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'est. Il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Il tira. Élisée dit, c'est une flèche de victoire de la part de l'Éternel. Une flèche de victoire contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Il frappa trois fois et s'arrêta. Et la suite est intéressante. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. Il fallait frapper cinq ou six fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Désormais, tu ne les battras que trois fois. Et ensuite, le prophète va de son côté mourir. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? On a un homme, un roi qui, au demeurant, craint Dieu, donc c'est bien. Il a le cœur, il a le caractère, mais il n'a pas la formation. Et au moment où il faut vraiment savoir comment faire, frapper à bon cœur, hein, c'était prophétique, c'était un acte symbolique prophétique, il fallait savoir faire des actes symboliques dans le naturel pour qu'il se passe des choses dans le monde spirituel et aussi dans le monde pratique. Ça va ? Et là, en fait, il est là, pour frapper des flèches sur la terre, ça ne veut rien dire. C'est débile. C'est débile. Sauf que ce n'est pas si débile que ça. C'est spirituel. Et comme il ne sait pas le faire, il fait ça. Moi, je le vois, j'ai l'impression de le voir en faire touc, touc, touc. Vous voyez ? Trois petits coups, là. Et le prophète s'irrite. Le prophète, il s'irrite. Parce qu'en fait, il fallait y aller. Et s'il avait vu un gars qui y allait à fond, il aurait dit, tiens, donne-moi ta main. Je vais déposer ma corne d'huile là-dessus et l'onction qui est sur moi, elle va aller sur toi. Sauf que ça, ce n'est pas possible parce qu'il ne trouve personne pour le donner. Et qu'est-ce qui se passe ? Élisée, frères et sœurs, il meurt avec. Il meurt avec l'onction qui est sur lui. C'est bête, hein ? Un gâchis énorme. Pour la terre. Et on le voit bien parce que quand il meurt, on le voit verset 20, Élisée mourut, on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un mort, un homme. Voici, on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et ploup, il reprit vie et se leva sur ses pieds. L'onction était sur le cadavre et personne n'avait pu la récupérer. C'est quand même dommage, hein ? Tout ça parce qu'il n'y avait pas, pour ce coup-là, il n'y avait pas eu le cœur d'un jeune ou d'une jeune qui était prêt à se consacrer comme Élisée lui-même l'avait fait. Voyez ? Donc, ce que je suis en train de dire au travers de tout ça, je m'excuse peut-être si je suis long un petit peu, mais en tant qu'Élie, si tu es comme un Élie ce matin ou comme une femme Élie, tu as encore des années à donner. Ça va ? Et puis, si tu es un jeune comme Élisée, ben, ne sois pas comme un Géasi ou sois pas comme un Joas qui veut récupérer le pactole de l'esprit sans être formé ou sans connaître vraiment les choses de Dieu. D'accord ? Il n'y a pas beaucoup de jeunes ce matin. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Où sont nos Élisées ? Oui, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui sont là. Merci Seigneur. Mais voyez ce que je veux dire ? Le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous. Le Seigneur a besoin que chacun s'engage en réalité, que les plus anciens, que les colonnes, que les piliers, que les fondations soient encore là et travaillent encore à l'œuvre de Dieu dans un sens de transmettre les choses et qu'il y ait aussi des plus jeunes qui commencent aussi et qui continuent peut-être, je devrais dire plutôt, qui continuent à s'accrocher aux meubles. Allô ? Qui continuent de dire « Moi, je ne lâcherai pas le Seigneur, je ne lâcherai pas les serviteurs qui sont là, je veux aussi la bénédiction et je veux pouvoir être une bénédiction pour ma nation. » Amen. Notre nation, frères et sœurs, a un grand besoin aujourd'hui. Hein ? Ouais. Il faut qu'on aille de l'avant. Il faut que les églises se bâtissent spirituellement et qu'elles portent de plus en plus de fruits. Et les temps ne sont pas si faciles que ça, si propices que ça. Mais c'est possible. Alléluia, parce que l'Éternel est vivant. Amen. Voilà, on va se lever pour prier un instant. Je vais simplement prier et je laisse ça sur votre cœur. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole et Seigneur, merci pour les hommes et les femmes qui dans cette salle sont comme des Élie, Seigneur, et qu'ils peuvent se reconnaître. Seigneur, qu'ils sont là comme des fondements, comme des piliers, comme ceux, Seigneur, qui soutiennent et qui ont soutenu, Seigneur, pendant tant d'années l'œuvre de Dieu. Et je te prie, Père Saint, dans le nom de Jésus, pour que cette parole, eh bien, qu'il puisse l'examiner, Seigneur, devant toi, et qu'il puisse s'interroger véritablement, Seigneur, si ils sont appelés, Seigneur, comme les choses semblent l'être, Seigneur, qu'ils sont appelés à donner encore des années, Seigneur, de consécration. Je prie, Seigneur Jésus, que, Seigneur, ce ne soit pas nous les hommes, Seigneur, à l'image d'Élisée, qui détermine le moment où il s'arrête, mais que ce soit toi, Seigneur, qui détermine le moment de la mise à la retraite, entre guillemets, si toutefois il y a une retraite dans le royaume de Dieu. Je te demande grâce, Père, dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour chacun en rapport avec son service, chacun en rapport avec ses qualités, avec ses dons, Seigneur. Et je prie que ce qui a été amassé, Seigneur, l'onction qui a été amassée, les capacités qui ont été amassées par le temps, soit aussi, et l'occasion aussi, Seigneur, d'être transmise. Et pour ça, je te prie que ceux qui sont là, Seigneur, eh bien, poursuivent leur travail, poursuivent leur service pour toi, Seigneur. Ne se débinent pas, entre guillemets, Seigneur, mais qu'ils soient fortifiés par toi. Et je veux aussi te prier, Père, pour des Géasi, Seigneur, enfin, plutôt pour des Élisée. Je te demande, Seigneur, des cœurs prêts à te servir, prêts à consacrer, Seigneur, leur vie, et prêts à marcher, à suivre pour hériter des promesses et être ceux qui vont édifier, Seigneur, cette église, ce lieu, Seigneur, en particulier. Seigneur, bénis la jeunesse. Il y en a une partie qui n'est pas là aujourd'hui, mais toi, tu les connais, tu les vois. Tu vois ceux qui sont présents. Et Seigneur, tu bénis déjà ceux qui sont présents. Tu bénis ceux qui ne sont peut-être pas présents aujourd'hui, mais tu mets dans leur cœur, et c'est ma prière, Seigneur, mets dans leur cœur, Seigneur, le désir, Seigneur, vraiment de marcher avec toi, de mettre leur vie aussi, Seigneur, toujours en règle devant ta face, de ne pas laisser le péché, Seigneur, prendre le dessus dans leur existence, mais Seigneur, vraiment de s'aligner. On a entendu parler de l'alignement, qu'ils puissent s'aligner devant toi spirituellement, spirituellement, Père, c'est ma prière. Dans le précieux nom de Jésus, je te prie, Seigneur. Bénis chacun d'entre eux, Père, dans le nom de Jésus. Amen.
Bien, j'aimerais dire que si vous avez des personnes que vous savez qui n'ont pas été là ce matin, ils peuvent écouter l'enregistrement. Hein. Sarah a enregistré le message de ce matin.